première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Donc ici, on va aller dans l'atelier dessin et peinture du centre La Pommeraye.
Trouble pictural. Fondation Paul Duhaime à La Pommeraye.
Ici, nous sommes dans la région de Belœil, donc nous sommes plus précisément à Quevaucamp.
Avec Robin Legge, Manon Pélissier, Karine Foll, Jacques Clichereau, Jacques Illegge, Xavier Canon, Hugues Joly et Bruno Gérard.
Ça, c'est le travail d'Alexis Lipstreux, effectivement. Donc Alexis Lipstreux est un magnifique artiste qui est reconnu depuis le début des années 90. C'est quelqu'un qui est fidèle à l'atelier depuis longtemps, depuis le début presque. Et c'est quelqu'un qui a eu une reconnaissance internationale assez rapidement. Il a eu de très belles expositions, notamment une exposition triptyque au Musée des Beaux-Arts de Liège, au Man Musée, ainsi que chez Christian Berst à Paris, avec un livre monographique. Et lui, donc, c'est un artiste qui puise son inspiration dans des œuvres de maîtres reconnus, de maîtres de l'histoire de l'art, des œuvres qui ont marqué justement cette histoire de l'art, et qui les réinterprète vraiment à sa manière. Donc De Vinci, Degas, Manet, également Le Titien, Giotto, El Greco et autres, Holbein par exemple.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Des places de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, on s'inquiète.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Alechinski.
Authentique, me tento, tentententum, stelé.
Le monde invisible.
Les artistes sont effectivement dans l'atelier qu'on va visiter maintenant.
Manon Pélissier.
Et vous voulez tourner sur l'institution?
Une ancienne ferme qui était habitée à l'époque par une famille, par des fermiers. Et puis, au fur et à mesure des années, différents bâtiments ont été rachetés pour finalement créer un des complexes de La Pommeraye, donc centre résidentiel pour personnes handicapées. Je pense qu'on a 223 résidents qui habitent ici de manière permanente. Et donc, où ils peuvent tant s'occuper des animaux, du verger, du jus de pomme, faire de l'huile de noix, des savons. On a un atelier menuiserie, un atelier ferronnerie, un atelier vitrail, journaux et papier, cartes postales, céramique, marionnettes, théâtre, vidéo et également donc, l'atelier où on va, atelier dessin et peinture.
Un an et demi que j'ai découvert l'atelier de Bruno Gérard et que j'ai eu la folle idée de raconter l'histoire de cet atelier.
Idéalement, les lieux qui vont nous accueillir vont payer la monographie à chaque fois. Donc ça, c'est l'idée. C'est que depuis les dernières années qu'on fait des expositions, les lieux où on travaille payent une monographie, quoi. Ça fait partie de la mémoire et de ce qui va rester. Voilà. Et voilà. Il y a un film qui va être fait. Alors effectivement, il y a Manon. Ça, c'est la grande chance qui, finalement, qui est arrivée à la naissance de la Fondation, donc avec tous les tâtonnements. Mais là, pour l'exposition qui va se faire à Lambersart, au Colisée de Lambersart, c'est Lille. Bon, ben, on va faire la première exposition de la Fondation avec un focus sur Oscar Haus, une sortie d'un bouquin, une monographie. Mais à Lambersart, il se charge aussi de faire un film sur les artistes qui vont exposer. Donc comme ça, ça va faire partie petit à petit de la mémoire de la Fondation.
Exposition Trouble pictural de la Fondation Paul Duhaime se tient avenue du Colisée à la Maison Folie de Lambersart à Lille jusqu'au 20 mai.
L'objectif de l'atelier, ce n'est pas de former des artistes. Hein. L'objectif de l'atelier, c'est bien d'essayer de garder des acquis au maximum quand ils arrivent. C'est de les développer si c'est possible. Et puis, bon, bah, c'est qu'ils passent aussi un bon moment à l'atelier, qu'ils soient heureux d'être à l'atelier. Après, si Il y a quelque chose qui se passe et affinité, pourquoi pas, mais c'est pas l'objectif, quoi. Parce que c'est vrai que du coup, comme ici à l'atelier, il y a quand même à peu près 35 artistes qui travaillent, on pourrait croire que on est dans une forme d'élitisme, mais c'est vraiment pas le propos et c'est vraiment pas, enfin, je vais dire une obligation. Viens qui veut et presque quand il veut. Ça veut dire que de semaine en semaine, ils font leur programme. Puisqu'ici, il y a 35 ateliers différents.
Trouble pictural par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Thomas vient à l'atelier depuis 4 ans à peu près, comme Carole. Donc je vais dire, c'est la nouvelle génération qui arrive à l'atelier avec des gens qui sont ici depuis 30 ans. Donc c'est ça qui est génial, parce qu'il y a ce foisonnement, ce renouvellement. Et puis, bon ben voilà, Thomas, on sent le bonheur de dessiner, Carole aussi, mais il y a des gens qui viennent aussi depuis 2 ans, mais qui vont exploser plus vite, quoi. Vous voyez, par exemple, ici, Thibaut Seigneur, ben, il y a déjà une maturité, je vais dire, dans son dessin, qui est évidente. Alors après, avec cette grande différence peut-être des artistes dits contemporains, et comme dirait Karine, in, c'est l'intentionnalité. Hein. Est-ce que Thibaut, en faisant ce travail, a intention de faire œuvre ? Je crois pas. Mais il n'empêche que nous, en regardant, ouais, bah on est quand même scotchés.
Alors, c'est un dessin fait à partir de feutre Posca. C'est un ensemble de lignes, de ronds et de mots. Et Thibaut écrit toujours beaucoup sur son état du moment, sur les gens qu'il voit. Donc là, j'imagine que c'est ça. On est dans des couleurs rouge, vert, violet. Voilà, après l'imagination pourrait faire dire tout un tas de choses. On pourrait avoir un circuit, des rails, voilà.
Quand je regarde son travail, ça me fait penser un peu au jeu OXO. Vous savez, quand on est à l'école, il y a les ronds, il y a les X, on fait des OXO. Bon, il faut savoir que le rêve de Thibaut, ce serait de devenir comptable. Donc il y a des chiffres, il y a des calculs. Alors après, effectivement, au niveau des couleurs, il travaille le marqueur. Donc il faut savoir que le marqueur, ça s'efface à la lumière. Donc ici, on emploie des marqueurs spéciaux qui sont des marqueurs acryliques. C'est de la peinture acrylique. Mais du coup, il y a moins de choix dans la variété des couleurs. C'est une boîte de 10 couleurs, il n'y a pas plus. On ne sait pas trouver plus. Et quand on regarde bien son travail, le marqueur permet des transparences, généralement. Et ici, on est bien sur la peinture acrylique, donc ça se chevauche. Donc, dans la réalisation de son dessin, en commençant le matin et en finissant le soir, eh bien, il peut être sur le matin avec une intention, et puis finalement, la journée s'est passée, et l'après-midi, il peut avoir varié dans son intention. Mais par exemple, ici, on voit un autre dessin où, finalement, il travaille avec des tons froids, hein, le mauve et le vert. Eh bien, il y a toute une série de calculs. Et pour lui, il faut que ce soit précis, et il demande s'il ne se trompe pas. Hein, donc il y a cette référence, mais il va pas parler du côté plastique des choses, quoi, que ce soit beau, pas beau, c'est pas son truc, quoi, hein. Bon, voilà, après c'est nous, spectateurs, le regard qu'on porte et l'émotion qu'on peut avoir par rapport à cette œuvre ou à l'autre, évidemment, et c'est ça qui est intéressant. Bon, après, il faut pas faire des généralités. C'est vrai que Thibaut, je pense qu'il n'a pas intention de faire œuvre, mais vous allez avoir d'autres personnes ici avec une stature d'artiste qui, eux, ont bien intention de faire œuvre et qui ont une réflexion. Attention, je ne dis pas que Thibaut n'a pas de réflexion, mais une réflexion plastique par rapport à leur travail. Donc c'est ça qui est riche aussi dans l'atelier, c'est toute cette variété de regards par rapport à leur création.
Sans Bruno Gérard, l'atelier ne serait pas le même. Il peut raconter de nombreuses anecdotes, de choses qu'il a vues à un moment, de quelqu'un, par exemple, qui faisait depuis des années, qui écrivait des chiffres ou des lettres, et à un moment, dans un coin en haut, à droite, il a vu un petit masque, un petit visage. Et c'est lui qui l'a remarqué et qui a mis l'accent là-dessus par rapport à cette personne qui créait ça. Et suite à ça est née une œuvre très personnelle.
Quand on travaille dans une académie, dans une école d'art, c'est exactement la même chose. C'est que parfois, vous avez des diamants bruts, quoi. Vous avez des gens, ils arrivent et c'est tellement évident. C'est là où notre travail, il est quand même de... tu es une artiste, mais enfin, pour être une artiste, exigences, il n'y en a que trois. Un, c'est du travail. Deux, c'est du travail. Trois, c'est du travail. Donc voilà, on a quelque chose à la base, on a une facilité, mais ce n'est pas pour ça qu'on devient automatiquement artiste. Et là, Isabelle, elle est arrivée chez nous toute jeune, hein. 21 ans, enfin je sais pas, aujourd'hui elle en a 25, 26, donc ça fait 5 ans qu'elle vient. Et dès le départ c'était évident quoi, évident. Et d'ailleurs aujourd'hui, enfin la semaine prochaine, elle expose dans un musée à Bordeaux où il va y avoir 95 dessins, puisque là elle travaille aussi au crayon gris et au marqueur de son œuvre. Mais voilà, il faut lui dire attention, parce que évidemment, si à 25 ans, à vous, on vous dit vous êtes un génie, bah ouais, on a tendance à le croire, quoi. C'est logique, quoi. On peut dire ça de tous les êtres humains. Donc voilà, de temps en temps aussi, notre boulot, c'est... Bon, attention, attention, c'est génial, mais...
Karine Foll est actuellement la directrice artistique de la Centrale for Contemporary Art à Bruxelles, mais avant cela, elle était directrice d'Art et Marge. C'est d'ailleurs elle qui a transformé, une dizaine d'années, Art en Marge à Art et Marge Musée. Et en fait, elle, depuis le début de l'histoire de l'atelier dessin de la Pommeraie, il y a un travail de collaboration qui se fait avec elle. Donc elle a énormément défendu les artistes de la Pommeraie. Elle a énormément exposé ces artistes. Elle a travaillé énormément aussi à l'idée de publication, d'édition, de diffusion du travail.
Alors ça remonte à très longtemps. Ça remonte à l'époque où j'étais encore au Botanique. Donc avant que j'étais chez Art en Marge à l'époque, Bruno Gérard était venu me trouver parce que Françoise Henrion avait proposé de me rencontrer comme j'étais en train de travailler sur ma thèse sur l'art brut. Et donc j'ai réalisé un premier catalogue avec Bruno Gérard sur la Pommeraie.
Et puis il y a des belles histoires, par exemple là, Oscar Haus, dont on va faire la première monographie de la Fondation. C'est un monsieur qui toute sa vie a travaillé dans une usine. Et le soir, il venait à la Pommeraie, à l'internat, pour vivre sa vie en dehors de l'atelier. Bon, donc, le dessin, pour Oscar, n'a jamais existé. Et puis, finalement, c'est à sa retraite qui, d'un seul coup, il n'avait plus rien à faire. Il venait, et lui, c'est une belle histoire, quoi, parce qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, comme tous les retraités. Et il venait, il passait à l'atelier dire bonjour, et puis c'est tout, il repartait. Et puis, il restait 5 minutes, et puis 10 minutes, et puis il est resté 1 heure. Puis j'y mets un jour, je dis, Oscar, tu prendrais pas des crayons? T'as pas envie de faire quelque chose? Et ça a commencé comme ça, quoi. Donc, je vais dire sa carrière artistique maintenant. Bon, maintenant, on sait que c'est une carrière artistique. Mais à l'époque, il a commencé à poser sa première trace sur une feuille. Il devait avoir 65 ans, hein, quelque chose comme ça. Et puis, pendant 10 bonnes années, il a travaillé. C'est devenu sa passion. Avec l'accordéon, parce que c'est un musicien.
Quand on le compare à d'autres dans le même type d'institution, c'est un très grand atelier, où il y a aussi, ça c'est assez étonnant, un très grand pourcentage de bons artistes, ce qui n'est pas le cas dans tous les ateliers non plus. C'est un atelier qui est mené par quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, qui est aussi dans le partage et dans l'écoute des autres, et ça s'en ressent, donc... une très grande diversité dans les signatures et dans les personnalités des artistes, ce qu'on ne trouve pas non plus dans tous les ateliers. Il n'y a pas une caractéristique qui serait spécifique à la pommeraie. C'est très, très diversifié. Ce qui est étonnant, c'est que certains vont venir tous les jours, d'autres viennent seulement une matinée par semaine, mais que quand même, avec le temps, je crois que l'élément du temps, justement, ce que vous soulevez, est très important. Et pas simplement l'organisation du temps dans la journée, mais aussi le temps dans la durée. C'est-à-dire que c'est un atelier qui existe depuis des dizaines d'années et où l'idée du processus et de donner le temps aux gens en retournant plusieurs fois par semaine, même parfois deux fois par jour, pour travailler et continuer à se déployer en tant qu'artiste, est important. À l'inverse des artistes professionnels qui disent « je suis un artiste, je sais, j'ai été dans une école d'art et donc je vais continuer ma démarche », ici, c'est très différent. Ce sont des personnes qui parfois arrivent dans cet atelier en ne sachant même parfois pas ce qu'ils vont faire, comme Paul Duhem, que j'ai eu la chance de connaître et qui est arrivé là. Et Bruno Gérard s'est dit « mais qu'est-ce que ce monsieur de 70 ans va pouvoir faire ici alors qu'il a été ouvrier toute sa vie, il n'a jamais dessiné ?» Et c'est devenu un des plus grands artistes qui est connu dans le monde entier. Donc cette idée de temporalité, de processus, de lenteur aussi, est fondamentale. Tout en n'étant pas déterminé au départ de faire quelque chose ou d'avoir un résultat, mais plutôt d'être dans le faire.
Il nous prouve aussi, au travers de tout ça, comme Paul Duhem, comme Martha Grenenoil, si ça vous parle, que la vie n'est jamais finie, quoi. Vous pouvez avoir une vie de galère, et puis à 60 ans, vous prenez un crayon, et vous êtes riche de toute votre vie, de tout ce que vous avez à dire. Et pendant 10 ans, 15 ans, Paul, c'est ce qu'il disait, c'était ma deuxième vie. C'est ma deuxième vie. Et Paul Duhem, en 10 ans, il a fait 6000 tableaux à peu près.
Une ambiance dans cet atelier, il y a une présence dans cet atelier. On sent le travail qui se fait.
C'est énorme, c'est une œuvre, hein, et qui a duré 10 ans. Voilà, c'est là où c'est passionnant, quoi. Là, on a des gens qui, finalement, depuis 30 ans, travaillent à l'atelier. D'autres sont venus pendant 20 ans. Il y en a qui ont arrêté, ils avaient fini.
Il y a une émulation, vraiment.
Michel Van Praat, magnifique aussi. Là, ça a été merveilleux parce que Michel travaillait aux ateliers de Blicky. Donc, c'est un atelier, protégé, pas très loin d'ici.
Françoise Henriot est la fondatrice d'Art en Marge dans les années 80. Et Françoise Henriot a beaucoup travaillé avec Bruno Gérard également au début d'Art en Marge. Donc, fin des années 80.
Et le soir, il vivait ici. Et tous les matins, je le voyais en train de nourrir les ânes, parce qu'il adore les ânes, et puis il leur parlait. Et puis il venait de temps en temps à l'atelier comme ça, et un jour j'ai été voir Jacques, puis je lui ai dit, tu sais Michel, il a des trucs à nous dire, quoi. Il n'arrive pas à le dire par des mots, mais il pourrait le dire par le dessin. Il a plein de trucs à nous dire. Et là où c'était formidable, c'est que pendant 2 ans, il a été mis au chômage, ou je ne sais pas trop, et puis pendant 2 ans, il a fait un tableau par mois, 24 dessins. Où il donnait la parole aux ânes et les ânes nous dépeignaient, nous humains. Bon, c'était pas toujours génial, hein, c'était assez dur. Mais enfin, il nous dépeignait. Et puis, 2 ans après, il a exposé au musée Art et Marge à Bruxelles et à la Création Franche à Bègles, près de Bordeaux. Et puis, quand on est revenu, il a dit « mais j'ai fini, je retourne à l'usine ». Donc, ce qu'il avait à nous dire, à nous transmettre, c'était 2 ans, 24 dessins, et voilà quoi, c'est unique quoi.
Bruno Gérard, c'est donc l'animateur de l'atelier peinture, c'est également un artiste peintre, et avec une considération des personnes qui l'accueillent dans son atelier qui leur donne vraiment toute leur place et leur humanité en tant qu'être et créateur aussi.
Alors
j'arrive.
Ouais, puis M. Bruno, il va bien. Bruno, Charlot.
Écoute, excuse-moi, mais là, j'ai vraiment... faut utiliser ça parce que ouais. Je n'ai plus... J'ai pas mes clés. J'ai dû prendre le trottoir.
Et actuellement, Karine Folle est également membre du comité artistique de la Fondation. Donc elle continue à nous conseiller, à nous aider, à nous soutenir par son expérience et ses compétences en matière de diffusion et de valorisation du patrimoine artistique, en l'occurrence de la Fondation.
Je suis sous-directeur du centre en fait.
Moi j'appelle Bruno Gérard, comme d'autres responsables d'atelier, des catalyseurs. C'est-à-dire qu'ils arrivent à un moment à découvrir ce qui se passe et à donner l'étincelle qui permet de trouver sa voie finalement.
Ah oui, 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 éducateur de formation. Et donc en 1989 en fait, on a ouvert le centre occupationnel. Et j'ai été engagé à la Pommerée pour ouvrir le centre occupationnel à l'époque. Donc c'est comme ça qu'on a ouvert différents ateliers, dont l'atelier de peinture. Voilà. Et puis,
qui est particulier, cet atelier de peinture, par rapport aux autres.
Ce qu'on souhaitait, c'est qu'il y ait plusieurs axes dans ce qu'on allait offrir aux personnes handicapées qui étaient au centre. Qu'elles aient quelque part un petit peu une vie comme monsieur et madame tout le monde. Hein. On va le matin, on part travailler, puis le soir, on rentre chez soi et on fait différentes choses. Eux, travailler, ben, c'était aussi, pourquoi pas, faire de la peinture, ça pouvait être aussi faire du sport, ça peut vouloir dire aussi donner un coup de main dans les services généraux à la Pommerée. Donc voilà, c'est trois axes qu'on a choisis. Le sport, les services généraux, l'aide à la communauté, et puis les ateliers artisanaux et artistiques. Ça, c'était le but, quoi. Voilà, et puis on a commencé par un, on en est aujourd'hui à 35 ateliers différents, mais qui sont toujours dans ces trois axes où on essaye d'avoir une harmonie aussi pour les personnes.
Louis, alors voilà, Louis fait ces tableaux qui sont là, ou le tableau qui est ici. Donc, généralement, il dépeint la ville à sa manière, avec des maisons qui sont un peu arborescentes. Ça devient presque des arbres, vous voyez. Et puis, avec les escaliers, comme Montmartre à Paris, tout ça s'entrecroise comme ça. Et puis après, il va aussi partir sur des thèmes d'actualité. Hein, il y a 4 ans, on a fait beaucoup d'hommages avec la guerre 14-18. Et il a vu beaucoup de choses à la télé. Enfin, voilà, ça l'a beaucoup travaillé. Et donc, depuis 2-3 ans, c'est une thématique qui revient. Parce que, après, il y a les attentats aussi. Enfin, voilà. Donc, voilà, lui, il est vraiment dans cette idée de « je représente la cité, mais qu'est-ce qui se passe dans la cité et comment je témoigne de tout ça ?» Alors. Louis, pour trouver sa voix, ce qu'il avait à dire, à trouver son style, il a mis 19 ans. Donc pendant 19 ans, il est venu à l'atelier quotidiennement, et où je disais, mais oui, c'est super, mais tu peux aller plus loin, tu peux aller plus loin, tu peux aller plus loin. Et son temps à lui, c'était 19 ans. Et ça, c'est important, quoi, la temporalité, c'est que chacun a son rythme pour arriver à faire les choses. Dans notre société, on n'a pas le temps. Nos enfants, à 3 mois, ils font le gribouillis, à 5 mois, ils doivent mettre les membres, et si à 10 mois, il n'y a pas le bonhomme entier, ça ne va pas. Enfin, hein, j'exagère, mais on est quand même dans une temporalité, en plus, qui est uniforme, quoi, alors qu'on est tous différents. Mais là, c'est ça qui était formidable avec Louis, c'est que finalement, je ne sais pas pourquoi, il devait avoir la foi, hein, quand même, parce que... Venir pendant 19 ans et entendre un gars qui te dit c'est chouette, mais faut supporter quand même. Alors Louis, effectivement, fait partie du comité artistique de la Fondation. Donc ça, c'est important. Il faut que les artistes qui font partie de la Fondation soient partie prenante. Donc Louis et Hugues qui est là-bas font partie du comité artistique de la Fondation, et il y a un autre artiste qui fait partie du conseil d'administration. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est quand on se donne le temps pour faire les expositions, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément accepter une expo pour dans 15 jours. Ce qui est chouette, c'est d'avoir un an, par exemple, et comme ça, on travaille pour. Et donc là, Vincent, pour la première fois, il commence des grandes toiles, parce que dans l'espace où on va exposer, il y a des grandes vitres, et on va pouvoir jouer avec la lumière qui vient des vitres, et ça peut être intéressant.
Par rapport à l'atelier de dessin, ben, j'ai commencé ma carrière comme chef de groupe ici à la Pommeraye en 1989. Ben, je sortais du Home André Livémont, Bruno travaillait avec moi, hein, on a travaillé déjà à cette époque-là. Donc on voulait ouvrir un atelier de dessin ici à la Pommeraye et ben, c'est assez naturellement que j'étais le voir en lui demandant s'il était intéressé par le fait de vouloir venir à la Pommeraye. Donc c'est comme ça qu'on a ouvert l'atelier le 2 février 1990.
Oui. Hugues est très croyant et donc il a commencé sa création il y a donc 27 ans où c'était des scènes religieuses. Bon. Mais à l'époque, et toujours maintenant, ouais. C'était un monsieur très beau, toujours maintenant, donc il y avait une attirance quand même pour le côté féminin. Et après, il a totalement abandonné le côté religieux pour faire pendant 25 ans, je vais dire, des nus féminins. Et puis, il y a 2 ans, je ne sais pas pourquoi, avec un courage assez étonnant, parce que c'était se remettre en question totalement, il est revenu sur des peintures religieuses. Mais c'était vachement compliqué, quoi, parce que c'est comme s'il recommençait la peinture à zéro. Et puis... qu'est-ce que j'ai à dire par rapport à ça? Comment dynamiser ma toile? Comment faire les mises en page? Waouh, c'était vraiment très courageux parce que pendant un an, une bonne année, ça a été un peu galère même. Ouais. Et puis ici, là, voilà, maintenant c'est reparti. Et c'est génial parce qu'il y a un musée qui vient de lui acheter 4 toiles. Donc ça, c'est magique parce que c'est des toiles, je pense, difficiles. Si vous mettez ça dans votre salon... c'est génial, mais ça prend tout. Vous ne pouvez pas mettre d'autres tableaux, vous ne pouvez rien mettre d'autre. Et donc, j'ai toujours dit à Hugues, tu as un travail muséal. Mais il faut l'entendre, quoi, parce que ça veut dire je ne vends pas beaucoup, alors que d'autres vont vendre. Enfin, voilà, quoi. Après, on s'en fout, mais quand même, c'est une reconnaissance. Donc, le fait que le mois passé, il y ait un musée qui vienne et qui achète 4 toiles, c'est quand même très chouette, quoi. C'est motivant.
Hein. Ouais.
Enfin voilà, et donc là on a un projet, mais je sais plus, dis-moi.
C'est
parce que...
octobre 2019, une exposition triptyque qui aura lieu à Tournai et à Lessines. Donc à Tournai, ce serait chez Elle Décoration Internationale, qui est donc une scénographe, qui a une belle maison classique à Tournai, à l'église Saint-Brice à Tournai, qui se trouve à proximité. Et puis l'autre lien qui accueillerait Hugues, c'est l'hôpital Notre-Dame à la Rose, pour créer un dialogue entre les collections permanentes, et avec la possibilité également pour Hugues, comme on a le temps maintenant jusqu'en 2019, ça serait peut-être de produire des œuvres spécifiquement par rapport au lieu, aux collections, créer du dialogue quoi, entre son œuvre et l'hôpital.
Un bel environnement. Hein.
Je vois des serres là au fond, et puis basse-cour.
Hein. Oui, bien sûr, donc ça c'était aussi un aspect très important, c'est qu'on puisse développer tout ce côté approche de la nature, avec les animaux, la vie aussi. Hein. Bon, ouais, c'est une autre manière de pouvoir expliquer aussi la vie aux personnes handicapées. On est, on vit. On meurt et bien parfois, voilà, c'est une référence qu'on peut faire aussi sans être directement sur des choses qui sont très proches. On peut pouvoir comme ça expliquer.
Et Monsieur Jacques est sous-directeur de la Pommeraye et membre fondateur de la Fondation.
Et la nature, ben voilà, c'est le plaisir aussi de mettre les mains dans la terre. De pouvoir mettre des graines, de voir pousser les plantes, c'est un plaisir partagé. Et puis après, ben, c'est aussi tout ce contact avec, avec la, l'insertion, parce que ben, les gens viennent, ils viennent pour acheter des légumes, et les personnes sont fières aussi de vendre les légumes qu'ils ont produits. On a un petit magasin ici qui permet ce genre de choses aussi, quoi. Donc l'optique, c'est quand même toujours aussi orientée vers l'extérieur et vers l'intégration dans la communauté. Aussi bien quand on fait une exposition, c'est aussi le but. Ben, vous qui êtes là aujourd'hui, le regard que vous avez posé sur les personnes, vous avez dû le remarquer hein, quand vous avez enregistré le travail de Christelle. Vous avez vu l'enthousiasme qu'elle a pu mettre à ce moment-là, parce qu'elle est très consciente de ce regard qu'on porte, et ils sont très conscients de ce regard qu'on porte sur leur travail, et ça, c'est merveilleux quand même.
Et rappelez-moi votre nom.
Jacques Clichereux.
Répétez parce qu'il est...
Jacques Clichereux.
Je vais prendre un peu de son de la basse-cour.
Oui, d'accord.
Merci beaucoup.
Ouais, ça fait 27 ans que je fais de la peinture. Hugues Joly. Je suis arrivé en Belgique après l'indépendance, enfin avant l'indépendance en 1960. Puis j'ai été à l'école de Joly à Uccle et là j'ai appris à lire et à calculer et à dessiner et à apprendre l'histoire. Après l'école de Joly, j'ai été à l'école d'horticulture. J'ai fait mes professionnels à l'école d'horticulture de Mons. Puis j'ai travaillé à l'atelier protégé de Chef de 74 jusqu'en 78. Après en 78, j'ai dû aller en clinique et après j'ai été... En 79, j'ai quitté la clinique. J'ai vécu dans les Ardennes pendant 7 à 8 ans. Et puis, je suis venu à la Pommeraye en 87. Et ça fait depuis 30 ans que je suis à la Pommeraye. Mais mon vrai métier, c'était l'horticulture. Après, j'ai fait le dessin. Et maintenant, je fais que le dessin ou bien je travaille dans le magasin de la Pommeraye.
Fondation Paul Duhaime, que vous avez connu.
Paul Duhaime, oui, j'ai eu cette chance. C'était quelqu'un de fort intérieur, quelqu'un qui était fort présent dans l'atelier, qui a eu énormément d'influence sur les artistes qui fréquentent l'atelier de Bruno Gérard, alors qu'il ne cherchait pas à être quelqu'un d'influent. Mais il avait une telle personnalité, une telle présence dans cet atelier, que c'était pour moi réellement un pivot.
Et votre père, Jacques Ilègue ?
Donc mon père est lui responsable des expositions de la Maison de la Culture de Tournai.
Jacques Ilègue, la raison de votre présence ici ?
C'est une longue complicité avec Bruno Gérard. C'est vrai que la Maison de la Culture de Tournai a d'emblée, dans les années 80, été sensible à la création artistique des personnes handicapées mentales. On a été un peu des précurseurs, sans qu'on cherche à l'être. Mais on a organisé des expositions avec le CELAR, qui était l'association dans laquelle Bruno Gérard était actif à l'époque.
Moi, évidemment, dans le cadre de mes fonctions à l'époque à la province de Hainaut, je me suis concentré sur l'atelier de Bruno Gérard, et qui était, j'ai trouvé, un atelier absolument fantastique, avec des univers de personnes qui ne trichent pas, qui ne se posaient pas la question de savoir s'ils étaient artistes ou pas, mais où on sentait la nécessité d'avoir un travail bien fait, bien terminé, mais aussi, ce qui était amusant, quelque chose comme des fonctionnaires de l'art, et je dis ça sans aucun mépris ni pour les artistes ni pour les fonctionnaires, on arrêtait à midi parce qu'on avait faim. Et il fallait surtout pas qu'on soit en retard pour aller manger. Il y avait quelque chose comme une espèce d'horaire, de rythme dans la journée, qui est souvent une des caractéristiques des artistes de la marge, de travailler avec un réveil, de calculer la valeur du travail accompli par les heures qu'on y a consacrées. Et je dois dire, j'ai vraiment été épaté par à la fois la diversité des univers, mais par la puissance aussi des travaux qui étaient menés, avec évidemment des degrés totalement divers dans l'expression artistique.
Xavier Cannon, lui également, en tant que responsable des collections secteur art plastique de la province de Hainaut à l'époque.
Mais je dois dire aussi que Bruno Gérard est quelqu'un qui n'a jamais poussé ou téléguidé ces garçons, comme il les appelait, mais au contraire qu'il leur laissait totalement une expression, je dirais qu'il les accompagnait dans une voie qu'ils avaient choisie, avec des degrés totalement divers dans les techniques, que ce soit l'huile ou l'aquarelle ou le pastel gras, et que ce soit même des gens qui ne dessinaient pas au sens de représenter des formes, mais qui écrivaient. Je crois que c'est Michel Dave ou De Fontaine, je ne sais plus lequel des deux, qui construisaient des espèces de journaux de sa journée qui l'entouraient d'une espèce de petite parabole, et où il disait, voilà, aujourd'hui il pleut, aujourd'hui j'ai bu du café, il y a un chariot qui passe dans la rue. Toute une espèce comme ça de journal qui s'inscrivait dans l'énoncé de la feuille et qui se terminait la journée, se terminant quasi à la fin de la feuille, ou parfois était laissé abandonné comme une espèce de sanction du temps et de la chronologie. D'autres qui exprimaient des femmes nues magnifiques comme des crucifixions avec le sexe et la poitrine apparente. D'autres qui dessinaient des villes qui étaient d'énormes laboratoires. Et moi, ça m'avait intéressé non seulement pour leur qualité graphique, pour cette espèce de liberté. Mais à l'époque, nous étions en train de réfléchir à un musée, à une présentation permanente des collections de la province de Hainaut, ce qu'est devenu le BPS que dirige de main de maître Pierre-Olivier Rollin. Et mon idée était d'intégrer ces artistes dans la collection, de ne pas en faire un chapitre ou une séparation. Ils avaient pour moi la même valeur, ils ont toujours pour moi la même valeur que des créateurs. J'ai le bonheur d'en posséder l'une ou l'autre, et je dois dire qu'elles n'ont rien perdu de leur force. C'était véritablement de reconnaître ce travail comme un travail artistique et pas comme un travail de la marge, quelle que soit la formation ou le passé de ces artistes.
Et alors également, il a eu des actions vraiment intéressantes en termes d'acquisition d'œuvres, puisque lui a permis à différents artistes de l'atelier d'avoir des œuvres qui font partie d'une collection publique, à savoir la collection de la province de Hainaut. Donc des artistes comme Hugues Joly, Jean-Michel Wilbeau, Louis Poulain, Maurice Brunswick.
Je pense à Martha Grunenwald, par exemple, que j'ai exposé, auquel j'ai consacré un catalogue, qui n'était pas de la Pommeraye, mais qui était un artiste de la marge. Martha Grunenwald, qui est décédée malheureusement, qui a fait des dessins éblouissants, était quelqu'un qui avait été valet de ferme dans les années 1920-1930. Elle était une toute jeune fille qui avait vécu des moments très difficiles. Je me souviens toujours avec émotion qu'on m'avait raconté ses enfants, qu'il avait hébergé, recueilli, que parce qu'elle dérangeait ses patrons dans la ferme, on lui avait laissé son violon, mais on avait retiré les cordes pour qu'elle ne fasse pas de bruit. Et je la voyais dessiner comme ça, méticuleusement, sur des dos d'affiches de gouache et autres, des dessins éblouissants de couleurs, de lumière, d'une... J'en ai un qui est devant moi tous les matins quand je déjeune. Et je me dis, mais quelle extraordinaire revanche sur l'existence elle avait pu prendre. Et beaucoup de ces artistes de la Pommeraye ou d'autres ateliers, car il en est d'autres dans le pays, au sud du pays, nous opposent une fantastique leçon de vie, nous qui nous plaignons souvent devant la morosité ambiante.
Également Paul Duhem, évidemment, Michel Dave font partie des collections de la province.
La Belgique a vécu un moment, je crois, unique, vraiment, fin des années 70. Quand on a commencé nos ateliers, on était très peu nombreux. Hein. Il y avait le Créam avec le boulanger, Jean-Luc Wam avec le Centre de Fabiola et nous avec le Homme Livémont. Quand on a commencé, on se demandait est-ce qu'une personne handicapée mentale est capable de... Bon, c'était déjà pas gagné. Et est-ce qu'elle est capable de nous donner des émotions? Certainement pas, hein, à l'époque. Moi, je me souviens de ma première expérience d'atelier, parce que je ne suis pas éducateur, je ne savais même pas que ça existait. Enfin, bon, hein, donc j'étais quand même pas très compétent pour tout ça. Et le directeur m'a dit, ben, tu vas aller avec un collègue qui va te former. Et je me souviens, on est descendu à 2h à la cave. On a mis des bottes. On est sorti dehors pour faire l'horticulture. On est rentré dans un garage. On s'est assis là où on pouvait s'asseoir. Et on est ressorti à 17h. Et on avait fait une séance d'horticulture. Bon, alors, j'ai peut-être pas eu le meilleur des formateurs, mais n'empêche que c'était comme ça. Et puis, d'un seul coup, vous avez des gens, je commence la peinture, mon premier budget annuel, c'était 20 €. 20 €, 1000 francs belges à l'époque. Donc, c'était vite mangé. Donc, je me suis débrouillé pour avoir du matériel gratis, des feuilles de dessin, des peintures et tout. Puis, d'un seul coup, il y a des traces qui apparaissent, quoi. C'était le grand étonnement. Moi, j'avais 22 ans et je commençais à exposer. Et je me dis, c'est bouleversant, mais j'en étais pas sûr, quoi, vous voyez. Et je suis allé voir à l'époque Jean-Pierre Deneuve à la Galerie Coma, parce que je venais d'exposer, en lui disant, mais qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a dit, on expose. Donc l'histoire a commencé comme ça. Et il faut se remettre dans le contexte, c'est qu'à l'époque, les musées d'art outsider n'existaient pas. À part le musée d'art brut à Lausanne, rien n'existait. Donc on était vraiment au début de cette aventure, quoi. Et puis avec le foisonnement des institutions qui sont ouvertes, il y a eu des ateliers d'art qui se sont ouverts et d'un seul coup, on s'est rendu compte que il y avait des richesses exceptionnelles, quoi. Mais c'est du coup là où on doit être encore le plus attentif, vraiment, c'est que si moi je fais une exposition, Bruno Gérard j'expose, si vous considérez que c'est mauvais, vous allez dire Bruno Gérard mauvais, mais ça n'aura aucune influence sur mes collègues artistes. Dans un atelier, si on fait une mauvaise exposition, d'abord vous ne le direz pas, parce qu'on est encore dans ce moment où on n'ose pas. Donc vous allez dire, bah, pour des handicaps, tout compte fait, c'est quand même pas mal. Hein? Bon, hein? On va aller là-dessus. Et puis, on ne donne pas encore de nom. Ça commence. Hein? Pascal Tassini commence, Serge Delaunay, Paul Duhem. Il y a des noms qui commencent, mais c'est 40 ans. Hein? C'est vraiment un long chemin, enfin, qui est normal. Mais du coup, on doit faire attention, parce que si on se laisse aller, si on n'est pas exigeant, ça retombera aussi rapidement, je pense, que c'est né, quoi. Donc, voilà.
J'ai rarement vu un animateur d'atelier aussi peu penché au-dessus de l'épaule des participants de son atelier. C'est très, très surprenant. En même temps, je crois que le fait que Bruno soit là a son importance, puisqu'on a des artistes qui ne font rien. Si Bruno est à l'étranger pour monter une exposition, il y a un moment de suspension. Il y a quelque chose qui se passe, même quand il n'y a rien qui se passe.
Un mot, Jacques Ilex, sur Bruno Gérard, artiste?
Ah, c'est un être fascinant. Je trouve qu'il parvient à explorer le noir et le blanc, qui est un thème qui est difficile après certains artistes de continuer dans cette recherche. Elle est tellement liée à son existence, elle est tellement liée au carnet qu'il a découvert lors d'un marché aux puces, que c'est une exploration qui est un miroir de ce personnage.
Alors la fondation, bah, c'est ça aussi. C'est demain, est-ce que nos petits-enfants auront encore la chance de voir un Paul Duhem? Il faut.
Le thème qu'on n'a pas abordé, c'est la question des expositions que ces artistes font à travers l'Europe. mais aussi la question du marché.
Il faut que nous, on fasse ce travail maintenant. On l'a initié, eh ben, il faut qu'aujourd'hui, on l'assume et qu'on aille jusqu'au bout de la conservation. C'est un peu ça, en fait, la naissance de la Fondation. C'est parti d'une angoisse en se disant, mais qu'est-ce que tout ça va devenir, quoi.
Il y a un marché et on a la chance d'avoir un Bruno Gérard qui a une éthique à la fois, une éthique interne à la pommerée avec une répartition par rapport aux produits de la vente entre l'atelier et l'artiste, mais aussi une éthique par rapport à certaines galeries qui sont un petit peu rapaces par rapport à ce type de création.
Donc Robin lègue deux événements qui vont arriver de façon concomitante, une édition et une exposition.
La première véritable exposition de la Fondation Paul Duhem qui aura lieu à la Maison Folie Le Colisée à Lambersart, donc près de Lille, du 8 février au 20 mai, et où on aura l'occasion de présenter toute l'évolution du travail de François de Fontaine, donc artiste de la Fondation depuis le début.
On est dans un réel atelier comme ça existait au Moyen-Âge, c'est-à-dire ces ateliers où la création est au centre de tout.
Également toute une série de jeunes pousses, des artistes tout jeunes qui sont en train vraiment de développer une œuvre assez incroyable, comme Ludivine Flips, François Peters, Christian Gauthier, Thibaut Seigneur, mais également Vincent Fénéroux.
Dans le cas de Bruno Gérard, c'est plus de son retrait que de sa présence.
Et c'est important. Et on a vu combien d'œuvres qui ont été brûlées dans les institutions. Vous savez, c'est tout bête, hein. Faut changer la toiture. Enfin, j'en parle parce que je l'ai vécu. Faut changer la toiture. Toutes les œuvres sont là. On demande à une personne de les mettre ailleurs. Ils se retrouvent devant des milliers de dessins. Bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Et alors, ce qui est le plus fou, parce que là, c'est de nouveau c'est cette intentionnalité de faire œuvre, c'est que les personnes qui ont mis le feu aux œuvres, c'est les personnes qui avaient fait les tableaux.
Moi, je suis toujours surpris par la liberté de la lumière, la liberté de la gaieté qu'on a dans les œuvres des personnes de la marge.
En même temps, ça nous remet, nous, par rapport à notre œuvre, en question, parce que finalement, parfois, nous, on est tellement acharnés. Et quand on se retrouve devant la toile blanche, finalement, avec l'éducation qu'on a eue et les contacts qu'on a, évidemment, avec les musées et tout, même si c'est mauvais, on ne peut pas, quelque part, oublier qu'on fait œuvre. Vous voyez, je ne parle pas de qualité. Mais on sait qu'en faisant une tache sur la toile, on fait un geste plastique. Ce qui n'est pas forcément vrai ici, et c'est aussi intéressant.
Et alors, l'autre artiste sur lequel on fait un gros focus sur tout le travail et dont là, l'œuvre est terminée, c'est Oscar Hoff.
On a été actif dans la création d'un atelier pour personnes handicapées mentales et c'est vraiment une ligne de conduite. Une ligne de conduite en se disant il n'y a pas de raison de faire une différence entre cet art et l'art réalisé par des personnes qui suivent un cursus. Et donc, chaque fois qu'on a pu intégrer un volet de l'art en marge dans nos manifestations, nous l'avons fait tout naturellement.
Oscar a commencé son travail très tardivement. Il a produit pendant 10 ans une petite centaine d'œuvres. Beaucoup d'œuvres sont liées à l'accordéon parce que c'est un accordéoniste. Et c'est quelqu'un qui mêlait tant création plastique avec une fidélité autour, par exemple, de ses disques. Il avait toute une collection de disques d'accordéonistes, donc il reprend le sujet et puis l'embellit au travers de sa palette chromatique. Mais également, va puiser des images dans différentes références pour produire une œuvre totalement imaginée.
C'est un lieu qui est connu maintenant internationalement. Je crois que les participants de cet atelier magique animé par Bruno Gérard, qui est un atelier très diversifié au niveau des créations artistiques, mais il y a quelque chose où les gens sont poussés par eux-mêmes à aller plus loin que simplement occuper un morceau de la feuille de papier qui est devant soi.
Trouble pictural. Fondation Paul Duhaime à la Pommeraye. Avec Robin Legge, Manon Pélissier, Karine Foll, Jacques Clicheroux, Jacques Ilegue, Xavier Canon, Hugues Joly et Bruno Gérard. Exposition Trouble pictural de la Fondation Paul Duhaime se tient avenue du Colisée à la Maison Folie de Lambersart à Lille jusqu'au 20 mai. Trouble pictural par Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Et au travers de cette exposition et de ce focus sur Oscar Haus, nous avons décidé que la première monographie lui était consacrée, étant donné qu'il est encore vivant et que son œuvre est terminée puisqu'il n'est plus en capacité de produire. On veut lui rendre hommage au travers de la toute première monographie qui fera partie d'une collection.